nous ne pouvions pas parler de la Chine sans aller sur le terrain économique, s'agissant justement de la deuxième puissance économique mondiale. C'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui, en tentant toutefois de tordre le cou à ce flot d'idées reçues, de certitudes et de contre-vérités, émises par bon nombre d'experts, de spécialistes de la spécialité et de journalistes parfois mal informés ou trop soucieux de sacrifier la complexité sur l'autel du simplisme. Car que n'avons-nous pas lu ou entendu sur cette Chine qualifiée d'ultralibérale, cette Chine au capitalisme outrancier, à la vue des taux de croissance insolents qu'elle affiche depuis plus de 15 ans, au point qu'elle est devenue malgré elle, ou pas, cette usine du monde dans laquelle tous les investisseurs occidentaux ont rêvé posséder un atelier. Convertie au capitalisme, la Chine, peut-on entendre depuis la grand-messe olympique pékinoise de 2008, serait même en marche vers la démocratie, comme si la libéralisation économique annonçait la libéralisation politique. Après trois décennies de réformes initiées par Deng Xiaoping, l'économie chinoise provoque jalousie et envie, tandis que l'Occident tente par tous les moyens de relancer sa croissance. Mais à bien y regarder, n'en déplaise à certains, le modèle chinois ne saurait se confondre avec aucun autre, au point de ne pouvoir être analysé à l'aune des théories et des schémas économiques classiques. Marie-Claire Bergère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite des universités, auteure de nombreux ouvrages sur l'histoire de la Chine moderne et contemporaine, notamment « Capitaliste et capitalisme en Chine » publié aux éditions Perrin en 2007, et puis « Chine, le nouveau capitalisme d'État » chez Fayard qui vient de paraître. À côté de vous, Xavier Richet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Alors votre CV est très impressionnant. Alors on va faire court, hein. Je dirais que votre activité d'enseignant et d'économiste se concentre sur une approche comparative de l'économie mondiale, notamment sur l'évolution contemporaine d'une zone qui balaye le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et puis également avec nous dans ce studio, Jean-François Huchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sinologue, économiste, et après avoir dirigé le Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong, vous vous êtes installé à l'INALCO, vous êtes professeur des universités, vous y enseignez l'économie et les sociétés des mondes chinois contemporains, et vos recherches portent notamment sur le rôle de l'État dans le développement industriel de la Chine avec une perspective comparative avec l'Inde. Alors pour commencer cette table ronde, une première question que je pose comme ça à la cantonade. Pourquoi une telle illusion, une telle sino-béatitude, comme je disais en introduction, de la part des observateurs occidentaux s'agissant de l'économie chinoise, Marie-Claire Bergère ?
Plusieurs raisons, je pense. Tout d'abord parce qu'après la chute des régimes socialistes d'Europe de l'Est et d'Union soviétique, il y avait une espèce de manque d'alternatives théoriques. Il y avait l'idée que le socialisme ne marchait plus et que par conséquent, il n'y avait plus qu'un modèle unique, celui du capitalisme, vers lequel devaient converger tous les pays en voie de développement. C'est une première raison. Une seconde raison, c'est la naïveté ou l'ignorance d'un certain nombre d'Occidentaux qui espéraient justement que le capitalisme se développant, en vertu de la théorie de la modernisation, on irait vers une convergence, et non seulement une convergence économique, mais aussi politique, et un développement de la démocratie dans le sillage du développement du capitalisme. Cette opinion était aussi soutenue par des gens qui n'étaient pas totalement désintéressés, en particulier par des grandes entreprises, des multinationales, qui développaient leurs entreprises en Chine en profitant des conditions qui règnent toujours d'ailleurs, mais enfin qui régnaient particulièrement à cette époque-là, c'est-à-dire un mépris complet des droits des travailleurs et des conditions de travail et aussi de l'environnement. Donc on faisait beaucoup de bénéfices avec des frais très allégés. Donc il y avait un intérêt financier de ces grandes compagnies. Ce n'était pas très glorieux. Alors dire qu'en développant le capitalisme, en développant leurs affaires, ils travaillaient à la démocratie, c'était une manière d'effacer un peu les abus dont ils profitaient par ailleurs. Il y avait aussi une certaine complicité, disons, des pouvoirs politiques qui soutenaient ces multinationales et qui avaient non pas abandonné la défense des droits de l'homme, qu'ils avaient quand même défendu assez énergiquement dans les années 80, après le mouvement de Tiananmen en 1989, après la répression de ce mouvement. Les grandes puissances avaient établi des embargos, avaient fait des remontrances, etc. Mais assez rapidement, les intérêts économiques ont prédominé et la théorie a été de reprendre les relations avec la Chine, to engage China, comme disaient les Américains, qui était un moyen de contrôler un peu cette puissance et de l'accompagner. C'était mieux que de l'isoler et ça permettait de l'intégrer progressivement dans le concert des nations. Donc je pense qu'il y a eu un certain nombre de causes qui ont convergé pour expliquer cette persistance dans l'interprétation d'une évolution vers le capitalisme.
Jean-François Richer.
Oui, sur la question plus précise de l'État, c'est vrai que les processus de transition des économies post-socialistes, dans les expériences qu'on a eues dans l'ex-Union soviétique ou dans les pays d'Europe de l'Est, ont été bien évidemment analysés à l'aune de ce qu'on peut dire hein, le consensus de Washington. Donc il y avait une idée aussi que l'État devait se retirer parce qu'il avait été trop présent durant la période de la planification. Et je crois qu'on a aussi un peu analysé la trajectoire chinoise à l'aune de ce qui s'est passé aussi dans ces pays. Donc pendant toutes les années 90, on a eu des très bonnes analyses sur le plan factuel, même des grandes organisations internationales, Banque mondiale, Fonds monétaire international, OCDE, qui nous ont décrit comment le secteur privé augmentait de jour en jour, ce qui est le cas, mais sans voir que l'État... Bien évidemment, n'agissait plus de la même manière que durant la planification. On n'avait plus du tout un État aussi présent qui contrôlait de manière quotidienne l'activité des entreprises. Pour autant, l'État était toujours présent et a renouvelé son mode d'intervention dans l'économie, et en particulier après 92, est resté quand même à garder le contrôle du capital des très grandes entreprises chinoises. Je dirais même le parti a gardé le contrôle sur les entreprises, puisque les dirigeants des entreprises sont nommés directement par le parti. Et donc on s'est réveillé un peu avec la gueule de bois au début des années 2000, lorsque, en analysant les fortunes 500 des grandes entreprises mondiales, on a commencé à avoir quelques entreprises chinoises. Et puis d'année en année, on en avait un peu plus. Aujourd'hui, il y en a à peu près 70 dans ce classement. Et puis on se rend compte que toutes ces entreprises sont des entreprises d'État. Alors... Bien sûr, on s'est posé des questions. Comment se fait-il que l'État, dont l'action est toujours jugée inefficace en matière de développement, ce que disaient les économistes néoclassiques, et en particulier le consensus de Washington, comment se fait-il qu'un pays qui connaît à peu près 10% de croissance en moyenne chaque année puisse avoir un secteur public aussi important et puisse générer autant de croissance, d'où un certain nombre d'interrogations qui ont commencé à poindre, à mon avis, à partir de 2004-2005, où on a commencé à s'interroger véritablement sur ce modèle qui avait fait des réformes, s'était renouvelé avec un État qui avait changé son mode d'intervention, même si il reste bien évidemment encore très très présent dans l'économie chinoise. Donc il y a eu effectivement un changement d'optique, un changement de lunettes à adopter à partir de 2004-2005 pour analyser le modèle chinois qui nous pose beaucoup de questions, hein, d'une certaine manière même à l'Europe.
Xavier Richer, vous avez travaillé sur la stratégie justement de ces firmes françaises qui auscultent ces nouvelles zones économiques, le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, comment se fait-il ? Il y a quelque chose d'atavique chez les compagnies, chez les firmes françaises, de regarder cet espace économique chinois avec des lunettes, comme le disait Jean-François Huchet, différentes ?
Oui, enfin je dirais que la Chine d'abord, un premier point, ça a été le premier résultat, en dépit des difficultés que Mme Bergère a montrées dans son ouvrage, un modèle de développement qui a réussi. Donc je crois que l'admiration que les gens ont pour la Chine, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a tout essayé. Et puis là, on a vu, sans modèle a priori, quelque chose avec le bricolage, avec ce que vous appelez le bricolage, l'ajustement, l'empirisme, disons, une croissance soutenue et qui a conduit à la modernisation et à la sortie de la très grande pauvreté d'une grande partie de la population. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est très intéressant, c'est que la Chine a été un acteur, une composante et un acteur de cette mondialisation. La mondialisation, c'est quoi ? C'est l'ouverture des marchés et c'est la stratégie internationale des firmes qui délocalise des activités, qui conserve par exemple leur recherche et développement dans le pays d'origine, mais qui va transmettre le processus de fabrication, etc., dans d'autres pays. Et de ce point de vue, la Chine a choisi, enfin disons, l'ouverture et l'accueil de l'investissement direct étranger étrangers a été un facteur très important de la modernisation. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement les firmes étrangères qui ont joué, qui ont contribué à la modernisation de la Chine, mais la présence, par exemple, si je prends un secteur que je connais bien en Chine, le secteur de l'industrie automobile, c'est quasiment les investisseurs européens, notamment français à Wuhan, mais aussi américains et ensuite asiatiques, japonais, etc., qui ont contribué à façonner ce modèle. Ce modèle. Donc, l'investissement direct étranger a été, pour les Chinois, un choix de rattrapage technologique, donc capacité, en recevant les investisseurs étrangers, non seulement de créer des emplois, mais aussi de profiter de ce qu'on appelle l'essaimage, c'est-à-dire l'impact que vont apporter ces firmes par leur savoir-faire, les standards, la qualité supérieure, etc., et qui va contribuer en aval et en amont donc à nourrir le tissu industriel. Alors, de ce point de vue, les Français, comme les Européens, les Allemands, parce que les Allemands sont encore plus présents que les Français, ont joué un rôle et continuent à jouer un rôle très important en Chine, et notamment sous la forme de coopération avec des firmes chinoises, des firmes d'État chinois, mais aussi parfois des firmes toutes seules à 100% étrangères qui agissent, mais bien sûr dans le cadre d'un contrôle de l'État, c'est-à-dire on pousse les firmes françaises ou ailleurs ou d'autres pays à révéler leur technologie ou bien à s'associer à des programmes de recherche-développement ambitieux, encore une fois avec cette idée très fermement marquée par les dirigeants chinois, de bénéficier donc de la présence de ces firmes étrangères pour, disons, accélérer la mise à niveau et devenir aujourd'hui des producteurs de technologie. Pas simplement, disons, l'atelier du monde. D'ailleurs, les Chinois sont un peu vexés quand on dit c'est l'atelier du monde par rapport à l'office du monde, le bureau du monde en parlant de l'Inde, parce que ça veut dire, c'est un peu péjoratif, aujourd'hui, on veut être exportateur de produits électroniques, des produits à haute valeur ajoutée.
Alors, on l'a bien compris, il y a un acteur incontournable en Chine, c'est l'État. Trois décennies de réformes. Quel a été le rôle de l'État et de l'idéologie communiste dans ces réformes, cette idéologie qui est finalement, si je peux dire, le socle de légitimité politique du Parti communiste? Comment on a associé ce fondement idéologique et ces réformes, Marie-Claire Bergère?
Pour enchaîner sur ce qu'avait dit tout à l'heure Jean-François Huchet, la présence de l'État a demeuré. L'État, c'est le parti, donc c'est la présence du parti qui est restée. Et cela n'a pas été perçu tout de suite. On n'a pas réalisé qu'en Russie, en URSS et dans les pays de l'Est, la transition vers le capitalisme était intervenue après des soulèvements populaires, après des mouvements politiques très importants qui avaient mis à bas les régimes antérieurs. En Chine, le régime n'a jamais été mis à bas. C'est le parti lui-même qui a géré cette transition et qui est resté. Et ça, on l'a très peu perçu. On voyait la transition, on voyait le capitalisme et on ne réalisait pas que le Parti communiste était toujours là et que c'était lui le chef d'orchestre de la réforme. Donc, ça, il me semble que ça explique un petit peu la confusion. Alors, en ce qui concerne donc ce développement du capitalisme et ce que disait M. Richer tout à l'heure, il me semble qu'il faut le voir dans trois contextes ou dans trois perspectives. D'une part, le retour à une certaine tradition entrepreneuriale qui n'est pas du tout morte en Chine. Le régime maoïste ne l'a pas tué. Et aussitôt que cela a été possible, on l'a vu ressurgir. C'était une tradition de petites entreprises, mais très vivace. Et, le développement de la Chine depuis le début des années 80 s'est largement appuyé sur le développement de ces petites entreprises privées qui ont ressurgi. D'autre part, quand même, ça a été le développement du capitalisme, un aspect de la réforme, parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour libérer le marché, pour donner un statut plus ou moins officiel aux entreprises privées. Et donc, ça apparaît comme un aspect de la réforme. Et enfin, comme vous l'avez dit très bien, c'est un aspect de la mondialisation. C'est à la fois une cause, une conséquence de la mondialisation qu'un développement du capitalisme en Chine. Donc, je crois qu'il faut l'envisager sous ces trois angles.
Jean-François Huchet.
Oui, sur la question du Parti communiste, je pense que c'est, quand on regardera ce processus d'ici 50 ans ou peut-être un siècle, le jour où le parti peut-être aura évolué, je ne sais pas, je pense qu'on regardera ça avec, Et on considérait que c'était quand même un des grands paradoxes de l'histoire du communisme, puisqu'on peut vraiment dire que l'économie de marché, en tous les cas, plutôt que le capitalisme, a sauvé le Parti communiste, véritablement. Alors moi, il me semble qu'il y a deux dates qui ressortent dans ce processus de réforme. Il y a d'abord 1978, il faut se rappeler quand même que le parti sortait de la période du maoïsme, avec certes encore une grande légitimité auprès de la population pour ce qu'il avait accompli, je vais dire, avant 1958. Mais je crois qu'une grande majorité de la population a accueilli les réformes de Deng Xiaoping avec beaucoup d'enthousiasme pour changer, parce qu'il y avait une nécessité pour le parti absolu de changer de direction en matière politique et en matière économique. Et puis 92, c'est l'après massacre de Tiananmen en 89, grave crise politique dont il faut rappeler quand même les racines qui tiennent sur la direction des réformes aussi économiques. Est-ce qu'on stoppe les réformes économiques comme ce qui s'est passé en Hongrie ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est? C'était quand même ce que voulait une partie des conservateurs qui souhaitaient véritablement freiner ces réformes. À partir de 85-86, et puis ça s'est traduit par une grave crise avec les réformateurs, ceux qui voulaient aller de l'avant. Et après 89, il y a l'effondrement de l'Union soviétique. Et c'est vrai qu'on est encore une fois dans une grave crise de légitimité pour le Parti communiste. Et on a vu Deng Xiaoping ressortir quasiment de sa retraite en 1991 pour justement utiliser une nouvelle fois les réformes économiques pour essayer de sauver le parti. Il a lui-même dit qu'il y avait une fenêtre d'opportunité de 20 ans pour moderniser la Chine, et donc qu'il fallait relancer les réformes économiques, et que sans cela, la planification de type soviétique aurait été incapable de répondre aux défis énormes démographiques, chômage, stabilité sociale, devises, puisqu'il faut se rappeler qu'en 92, la Chine, il y avait un peu le feu dans la maison, avec aussi une crise bancaire qui très certainement serait survenue, je crois, avec les problèmes des entreprises d'État qui ne remboursaient pas leurs subventions, leurs crédits. Donc il y avait une nécessité absolue d'aller de l'avant en matière de réforme économique. On était bloqué, on ne pouvait pas ne pas avancer, ou alors on aurait très certainement subi le sort des autres économies. Ce qui est intéressant, c'est que Deng Xiaoping a utilisé une méthode, c'est qu'il a vraiment contourné ou tiré le plus possible la doxa communiste sur le plan intellectuel pour justifier tout ce qui était justifiable sur le plan économique. Alors, la dernière en date, c'est bien évidemment l'économie socialiste de marché. Ça nous a tous fait sourire quand c'est sorti en 1992, et puis après appliqué. Mais finalement, on y est dans cette économie socialiste de marché aujourd'hui. Et je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être été au bout de cette méthode de Deng Xiaoping. C'est-à-dire on a tourné autour de ce qui était faisable dans un cadre, communiste mais renouvelé, qui est complètement schizophrène aujourd'hui. Et je pense qu'une des difficultés des dirigeants actuels, c'est de redonner une base, un fondement théorique à de nouvelles réformes et à faire sauter des verrous idéologiques comme l'a fait Deng Xiaoping en 78 et 92. Et à mon avis, l'idéologie, bien sûr, personne n'en parle aujourd'hui, mais elle reste importante parce que le parti en a toujours besoin pour justifier de son pouvoir aujourd'hui. Et je pense que c'est une des grandes difficultés auxquelles est confronté et va être confronté Xi Jinping et Li Keqiang dans les années à venir.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mao, l'esprit de Mao, dont le visage est présent sur les billets de banque chinois, plane toujours sur ce modèle économique?
Je ne pense pas que ce soit le visage de Mao. Je pense que c'est le visage de Deng Xiaoping qui plane toujours sur en tant que méthode. Vous savez, quand Deng Xiaoping est revenu au pouvoir en 1973, il faisait relire tous ses discours par un des spécialistes de la propagande maoïste, parce qu'il se savait scruté par Mao et par la femme de Mao, Jiang Qing, et donc il ne voulait pas apparaître, parce qu'il il avait pris quelques mesures très audacieuses déjà à cette époque, avant les réformes de 78. Et donc, il a développé, je crois, un sens assez aigu de masquer un petit peu ses objectifs. Il avait dit lui-même que la réforme, c'est de traverser le fleuve en mettant le pied sur des pierres. Mais il n'a jamais dit ce qu'il y avait de l'autre côté du fleuve. Et il n'a jamais dit si les pierres, à un certain moment donné, il y aurait des virages ou des choses comme ça. Je ne sais pas s'il avait une idée derrière la tête, en tous les cas, en 78. Je pense qu'à l'époque, il s'agissait de démaoïser, il s'agissait de redonner, remettre la planification sur pied en faisant quelques réformes périphériques qui se sont avérées après, non pas périphériques, mais très importantes. Mais je crois que Deng avait cette capacité, très certainement. C'est un homme de parti, il voulait sauver le parti, et il avait identifié l'économie comme étant... un des aspects essentiels de la modernisation et aussi reprenant le flambeau des grands modernisateurs qu'on a depuis le milieu du 19e siècle. Donc il se remet dans une grande tradition et pour lui l'économie était très très importante. Mais je pense qu'aujourd'hui on est peut-être arrivé au bout de cette méthode.
Alors il y a déjà eu des grandes privatisations. Si on devait faire le portrait type, si toutefois il est possible d'avoir un portrait type de l'homme d'affaires chinois, ça serait quoi, Xavier Richer ?
Oh, il y en a plusieurs, je crois, et Marie-Claire Bergère les décrit bien dans son ouvrage. Je pense qu'on va avoir l'entrepreneur de base spontané, disons le petit entrepreneur qui va faire son business. On va avoir aussi l'entrepreneur escroc qui va peut-être profiter de certaines opportunités pour se développer et puis croître, et en particulier avec ses connexions. Il faut bien voir que le capitalisme qui se développe ici, c'est un capitalisme, comme dans tout système capitaliste, il faut des idées, hein, il faut des capacités, et il faut des relations. C'est évident que dans toute une série de secteurs en Chine aujourd'hui, vous avez des grands entrepreneurs privés qui peuvent se développer parce qu'ils ont un soutien direct ou indirect de l'État ou d'une fraction de l'État, etc. Donc je crois qu'une partie du capitalisme aussi est liée à cela. Et puis il y a une autre catégorie d'entrepreneurs que Marie-Claire Bergère cite dans son travail, avec lequel d'ailleurs ça me pose un problème, c'est ce qu'elle appelle les capitalistes bureaucrates. Ça renvoie à nos énarques des années 60 en France, qui passait d'un ministère pour aller diriger Renault et qui revenait. Je pense que c'est un peu différent aujourd'hui parce que ce qu'on a en Chine, finalement, au-delà de la prégnance du parti, au-delà du rôle du parti qui va affecter les gens, on a quand même ce que nous, en économie, on appelle un marché pour les cadres, un marché pour, les cadres dirigeants. Donc, c'est évident aujourd'hui que c'est plus comme en Union soviétique, on prenait un tel et puis on va le mettre là, etc. On va avoir un marché des compétences. Donc ça, je crois que c'est un aspect extrêmement important de la réforme chinoise, c'est qu'aux différents échelons où on n'a plus de dirigeants idéologiques au sens... Alors évidemment, ils ne peuvent pas brader la propriété, ils doivent éventuellement appliquer tel ou tel objectif, mais ce sont d'abord des gens qui connaissent le business, qui connaissent le monde des affaires, mais qui connaissent qui aussi leurs relations. Donc je crois qu'on a, on a une classe d'entrepreneurs, peut-être un peu hétérogène, mais qui joue un très grand rôle. Je crois que sans le parti joue un très grand rôle, mais ces entrepreneurs aussi jouent un très grand rôle parce que ce sont eux qui sont capables de voir les opportunités, de se dégager, etc. On l'a vu par exemple avec des firmes européennes. Je trouve ça absolument surprenant. Moi, j'ai un cas, j'ai une étudiante qui travaille sur une entreprise de Saint-Dizier qui a été rachetée, McCormick, qui a été rachetée par WTO, la première entreprise chinoise de tracteurs. Ben, les gens y vont alors qu'on les connaît pas. Geely, j'ai travaillé sur le cas de Geely, une petite entreprise qui faisait des mobilettes qui s'est payée Volvo. Donc on va avoir des entrepreneurs qui savent prendre des risques, pas simplement parce qu'ils ont éventuellement le parti ou indirectement derrière eux, mais parce qu'ils ont une vision, un projet, et ils pensent qu'ils peuvent le faire. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important, disons, de cette réalité chinoise, c'est que le succès que l'on connaît dans certains secteurs, il est lié aussi à l'émergence de cette classe d'entrepreneurs qui agit dans différents secteurs.
Alors une classe d'entrepreneurs, dites-vous, Marie-Claire Bergère, hétérogène, forcée par le parti. Le parti refuse d'avoir un groupe, une nouvelle classe, une nouvelle génération d'hommes d'affaires trop homogène, parce que dites-vous, le pouvoir aurait peur de voir se constituer une sorte de contre-pouvoir.
Oui, et avant d'en revenir aux entrepreneurs, je voudrais revenir à ce que disait Jean-François Huchet sur le verrou idéologique. Parce qu'il me semble que L'idéologie reste extrêmement importante. Les écoles du parti sont extrêmement actives, même si elles enseignent essentiellement la comptabilité. Elles continuent à enseigner l'idéologie et les dogmes. Mais quand même, cette idéologie s'est beaucoup assouplie. Elle me paraît seconde par rapport aux intérêts. Il y avait un cadre que je dois citer qui disait « Ah, maintenant, être un bon communiste, il était d'ailleurs directeur d'entreprise, c'est gagner le plus possible d'argent ou faire prospérer de plus en plus, augmenter de plus en plus les dividendes. » C'est ça la preuve du zèle communiste, ce qui est quand même un certain paradoxe. Les trois représentations qui ont été prônées par Jiang Zemin en 2001 et qui réintégraient les entrepreneurs dans le peuple, n'en faisaient plus des ennemis du peuple et leur ouvraient l'accès au parti, représente aussi cet extrême assouplissement du parti. Donc il me semble que ce qui va se heurter aux réformes à venir, c'est vraiment les intérêts acquis, en particulier ceux des grandes entreprises publiques qui sont maintenant installées comme grands détenteurs du pouvoir. Elles ne sont pas à l'extérieur du parti, elles ne s'opposent pas au parti. Comme ces entrepreneurs sont aussi membres et responsables dans le parti, en fait, c'est un pôle de pouvoir à l'intérieur du parti qui devient aussi important que les militaires à l'intérieur du parti ou que les anciens gouverneurs de province et la haute administration à l'intérieur du parti. Ils sont partie prenante de la politique qui est faite à l'intérieur du parti. Et ça, évidemment, c'est très, très difficile de faire une réforme contre les entreprises publiques quand celles-ci représentent une partie importante du pouvoir en place. Donc, il me semble que là, les intérêts acquis sont vraiment des obstacles redoutables à la réforme, sans parler des liens qu'il y a entre le parti et les entreprises, etc., les liens de famille et les liens de solidarité sociale. Donc, pour en revenir aux entrepreneurs et à leur profil, oui, c'est certain, il y a un marché des compétences. Il y a des gens très bien formés qui ont été formés soit en Chine, soit en Occident. Il y a des managers de grande qualité. Le problème n'est peut-être pas dans leurs compétences ni dans leur présence, mais dans la priorité qu'ils donnent à leurs divers objectifs. Et on a vu, par exemple, au moment du lancement du plan de 2008, au moment de la crise, il y a eu cet énorme plan de relance, 586 milliards de dollars, l'équivalent de 586 milliards de dollars qui ont été mis à la disposition des entreprises, essentiellement publiques d'ailleurs, dès l'automne 2008. Et en fait, les observateurs pensent qu'il y en a eu deux ou trois fois plus par d'autres voies. Eh bien, dès cette époque, ou à cette époque, les banquiers, beaucoup de banquiers ont été opposés à ce plan de relance, disant que l'infusion d'une telle quantité de fonds publics dans l'économie allait provoquer de l'inflation, déstabiliser, des gaspillages, etc. Et certains étaient vraiment très hostiles à ce plan. Mais la plupart étaient très hostiles. Les banquiers sont parmi la catégorie d'entrepreneurs qui est le plus axée par la spécificité de leurs activités sur le marché mondial, sur les contraintes de ce marché, sur les contraintes les activités financières et les obligations. Mais un certain nombre ont accepté ce plan de bon cœur, c'est-à-dire ont multiplié les crédits, etc. Et d'autres, non, ils ont traîné des pieds. Et alors, on a vu la conséquence, c'est que ceux qui ont été acceptés, qui ont accepté ce plan, ont eu des promotions bureaucratiques extrêmement importantes, sont devenus vice-ministres ou ont eu des grandes. Sont devenus gouverneurs de province importantes, etc. Alors que ceux qui avaient par ailleurs de très bons résultats financiers dans leur banque, mais qui n'avaient pas vraiment bien accueilli ce plan de relance, eh bien, ils sont restés à la tête de leur banque. On ne les a pas sanctionnés, ils sont toujours des grands banquiers, mais ils n'ont pas eu l'avancement hiérarchique auquel peut-être ils aspiraient et qui pour eux doit être important.
Jean-François Huchet.
Oui, quand je faisais référence tout à l'heure à l'idéologie, peut-être que je n'avais pas suffisamment précisé ce que je voulais dire. Il y a bien évidemment la question de l'idéologie communiste qu'il y a dans la Constitution encore. Dans l'article 7 de la Constitution, il reste quand même toute une série de choses qui sont importantes sur le fait que l'économie chinoise est fondée sur la propriété publique des moyens de production. C'est surtout à ça que je faisais référence et ça me fait penser justement quand vous parlez des entrepreneurs, quand je parlais de l'idéologie, je pense qu'en 89, Deng a fait sauter un certain nombre de verrous idéologiques pour aller de l'avant. Il a utilisé des formules comme ça assez simplistes, mais il a permis justement, il a donné un cadre aux réformes, il a fixé des limites à ne pas dépasser, qui ont été à un certain moment dépassées en 89 et donc on a eu une crise. Je crois qu'il a refixé des limites en 92 et ces limites ont été d'abord le maintien d'un secteur public important que le parti doit contrôler via le département du personnel qui nomme justement ses grands patrons d'État et qui, à un certain moment donné, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, doivent faire un choix tout de même par rapport à ce que Xavier Richer disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont les compétences, mais à un certain moment donné, ils doivent faire le choix de savoir s'ils veulent avoir une carrière politique ou s'ils veulent rester dans le domaine économique. Et il y a eu un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu des réformes sur les stock options qui étaient très importante, distribuée aux grands dirigeants des grandes entreprises publiques. Et visiblement, il y aurait eu une règle posée par le département du personnel du Parti communiste disant que s'il voulait exercer ces options pour toucher les actions, il devait rester dans le domaine économique et donc n'aurait pas de carrière politique. Par contre, si jamais il voulait avoir une carrière de vice-ministre ou de ministre, ou voire plus, il fallait renoncer justement à ces stock options parce que ça créerait des jalousies, des différences. Donc il y a bien à un certain moment donné, quand même, quand on rentre dans la très haute sphère du pouvoir, la nécessité de changer. Et puis, donc, pour revenir sur les questions idéologiques, je pense qu'il y a trois choses à l'heure actuelle qui sont importantes, trois verrous, à mon avis, idéologiques. Il y a la question du secteur d'État. La propriété publique, qui est quand même, on n'a jamais vu encore un système communiste durer dans le temps sans propriété publique. On a déjà eu une grande innovation qui a été faite par Deng Xiaoping, à savoir un système économique communiste sans planification. Ça s'était jamais vu, mais là maintenant, il n'y en a plus. Et puis maintenant, il y a la question du secteur public, comme vous l'avez posé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ce secteur public? Et il me semble que là, il y a un verrou idéologique très important qu'il va falloir quand même sauter. La deuxième chose, c'est le fédéralisme. Parce qu'il me semble qu'on en discute sans en discuter. Et toutes les questions fiscales aujourd'hui en Chine, c'est un très grand problème pour la Chine. On sait que la grande majorité des régions et de tous les échelons administratifs qui sont en dessous des provinces, on pense qu'à peu près 60% sont en déficit chronique, c'est-à-dire que l'État central ne leur a pas donné les moyens d'avoir des ressources fiscales pour faire face aux dépenses, et qui sont nombreuses, l'éducation, l'infrastructure. Dans le plan de relance, ce sont elles qui ont apporté pratiquement plus de la moitié, en fait, du plan de relance. Et elles ont dû vendre du foncier, ce qui a entraîné beaucoup de dettes. Et là, je pense qu'on a encore un verrou idéologique à faire sauter, parce que le fédéralisme, c'est une sorte de fantôme qui hante les discussions sans vouloir en discuter, parce que pour la Chine, à la différence de l'Inde ou de grands pays démocratiques, le fédéralisme très certainement rappelle des moments difficiles de l'histoire chinoise où on a eu des forces centrifuges qui ont voulu faire exploser l'Empire chinois. Donc il y a cette question. Et puis il y a la question de la redistribution et du changement du modèle de croissance. Pour l'instant, on a privilégié, comme au Japon, en Corée du Sud, on a privilégié les producteurs aux dépens des consommateurs et des ménages. Et là, malgré ce qu'on peut dire sur la protection sociale, sur les frais d'éducation gratuits donnés aux enfants dans les campagnes, on sait très bien que si on veut avoir des résultats probants d'ici quelques années sur le changement du mode de consommation, il va falloir redistribuer massivement du revenu vers les salariés. Et là encore, on doit faire sauter un verrou idéologique qui a été posé dès 1978 et relancé en 1992, qui a été que pour financer la réforme et pour financer les investissements dans l'industrie, on ne pouvait plus utiliser la méthode maoïste qui était de se servir des paysans. On s'est servi des ouvriers, c'est-à-dire qu'au moment de distribuer la richesse chaque année qui était créée dans les entreprises, ce sont massivement les entreprises qui ont eu cet argent et pas les salariés. Donc, quand je faisais référence à l'idéologie, je pense à des verrous idéologiques qui ont été posés par Deng Xiaoping et aussi par les conservateurs en 1992. Et ces trois verrous, mais il y en aurait peut-être quelques autres qu'on pourrait identifier. Mais en tous les cas, ceux-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout et qu'il va falloir faire quelque chose et qu'on ne sait pas trop comment le justifier par rapport justement à cette question communiste. Parce que ça pose un problème. Donc je pense peut-être que cette question idéologique, elle est peut-être plus importante, mais elle s'exprime dans des choses tout à fait concrètes. Hein. On n'est pas dans l'ordre des idées uniquement pour savoir si on doit avoir une dose de léninisme ou de maoïsme. Je faisais référence à des choses très très concrètes dans le processus de réforme.
Alors pour être très concret aussi, pour poursuivre ce que vous dites, on a l'impression aujourd'hui quand même que la Chine est assise sur une sorte de poudrière sociale. Le mécontentement social est très important, le chômage est très important, la corruption, on parle beaucoup de corruption. Les deux assemblées se sont achevées il y a quelque temps et une des volontés affichées de la nouvelle équipe en place, dirigée par Xi Jinping, c'est de lutter contre cette corruption généralisée. C'est ça, ces verrous idéologiques qu'il faut faire sauter.
Si vous voulez, le problème, la corruption, elle est liée au système. C'est-à-dire que vous avez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un pouvoir symbolique et un pouvoir économique et qui se confrontent tous les jours. Je crois qu'il y a plusieurs milliers de gens qui sont condamnés chaque année pour corruption au plus haut niveau. Les hommes d'affaires ne peuvent pas aller à l'étranger si leur fils ou leur femme ou leur maîtresse sont déjà partis, etc. Donc il y a un contrôle absolu, disons, une tentative de contrôler la corruption. Or, la corruption, elle est absolument sous-jacente à ce système. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez ceux qui ont le pouvoir symbolique. Le pouvoir symbolique, c'est le tampon pour donner accès à un terrain qui se trouve à la porte des villes, etc. Le type qui reçoit ce tampon, il devient millionnaire immédiatement parce que c'est lui qui va construire les immeubles, etc. Et donc, la corruption, elle est là. C'est-à-dire que le coup de tampon, il va en contrepartie, disons, d'un accès direct ou indirect à un appartement, à une chose comme ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, disons, je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques, hein, mais c'est évident que on doit intégrer cette dimension corruption comme une permanence, une sorte de permanence dans le fonctionnement de ce système, c'est-à-dire que c'est un peu l'huile, hein, dans les rouages pour permettre au fonctionnement de l'économie, au développement de certaines activités, etc. Un des grands problèmes, là on touche aux limites du système chinois, qui est un système inachevé. Marie-Claude Berger montre bien dans son ouvrage le rôle du système bancaire, le système financier qui ne marche pas, il est toujours contrôlé par l'État. C'est encore un chemin par lequel l'État va favoriser des firmes qui devraient partir, mais il ne va pas le faire parce que si ces firmes s'en vont, c'est du chômage, etc. Donc il y a un problème où il y a par exemple, les spécialistes économiques, qui ne sont pas nécessairement chinois, mais certains chinois aussi, reconnaissent que, par exemple, les paysans devraient avoir un droit sur le foncier. C'est-à-dire que si on leur donnait un droit de vendre leur droit d'usage de la terre, ils auraient un pécule. S'il y avait du pécule, ils pourraient investir, etc. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est les municipalités qui vont empocher en chassant. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez en permanence, hein, le centre où nous étions à Hong Kong a fait une étude en disant qu'il y avait quelque chose comme 55 000 conflits, hein, sociaux par an en Chine. Donc pour vous montrer, alors qu'ils sont des petits conflits, ils ne sont pas unifiés. Donc simplement pour vous montrer qu'il y a des conflits permanents entre la population, certaines couches de la population, et puis les dirigeants locaux qui essayent d'asseoir leur pouvoir. Alors un dernier point sur les grèves. Un de nos collègues a montré, dans une des régions les plus dynamiques de Chine, le Guangdong, où les grèves se développent pas simplement dans les firmes, les succursales étrangères, où les conditions de travail sont pas formidables, elles sont si mauvaises que dans les autres firmes dominées par des investisseurs chinois, étatiques ou privés. Et vous avez un phénomène tout à fait nouveau, hein, qui est celui des limites du modèle basé sur l'exploitation des ouvriers. Donc vous avez, alors ça ne veut pas dire qu'on a un mouvement social structuré, revendicatif, mais pour aller dans la suite de ce que disait Jean-François Huchet, le fait d'avoir de la richesse qui est plus redistribuée au niveau des firmes au niveau des ouvriers, montre bien, hein, que ce problème de répartition devient aujourd'hui très aigu et, se traduit par l'exaspération ouvrière qu'on trouve dans toute une série d'entreprises, hein, pas simplement les firmes détenues par les étrangers.
Je voudrais revenir sur certains points qui ont été évoqués, en particulier celui du fédéralisme et, de façon plus générale, de la décentralisation. Il est certain que la réforme, depuis 78-80, a fonctionné en grande partie de façon décentralisée. Les initiatives locales, régionales, provinciales ont été très nombreuses, avalisées par le centre ou pas ensuite, mais même maintenant, beaucoup de choses se passent à l'échelle régionale, provinciale, et le centre n'est pas toujours obéi d'ailleurs, souvent il lance des mots d'ordre et il n'est pas contre le piratage, le vol de la propriété intellectuelle, tout ça, ça a été souvent, les mesures ont souvent été prises par le centre, jamais et pratiquement jamais suivies localement. Donc il y a une grande autonomie économique des diverses régions et des diverses provinces. Mais cette décentralisation économique, à mon sens en tout cas, ne menace pas l'unité chinoise. À un moment, on a dit, mais la Chine va exploser, ça c'était vers la fin des années 90, ça part dans tous les sens, la Chine ne va pas pouvoir maintenir son unité. Je crois que là, on négligeait de voir le contrôle politique qui s'exerce à travers le parti, qui contrôle la nomination des hauts fonctionnaires dans tout le pays. Donc, si un haut fonctionnaire se révèle vraiment peu sensible aux directives du centre, il ne reste pas en fonction, il saute. Et c'est par ce moyen-là, par le contrôle sur les nominations, qui reste très strict et très efficace, que le parti garde le contrôle sur l'ensemble de l'évolution du pays, en dépit d'une centralisation économique qui est extrêmement poussée. Les Chinois ont le talent de gérer les contradictions. Nous avons un esprit cartésien, nous pensons que s'il y a décentralisation économique, forcément il doit y avoir plus ou moins autonomie politique. Eh bien en Chine, ça ne se passe pas vraiment comme ça, il y a décentralisation économique, mais il n'y a pas décentralisation politique, en tout cas à un niveau qui puisse menacer le pouvoir comité central. Le changement de modèle dont vous parliez des verrous idéologiques au changement de modèle. Et là aussi, je reprendrai la même musique, mais sur le ton économique et social. Il me semble que le problème qui maintenant est de changer de modèle, on a eu jusqu'à une époque récente, et même maintenant encore, une croissance extravertie fondée sur les exportations et l'injection d'investissements publics. Il s'agit de passer à une croissance fondée sur la consommation intérieure et une meilleure répartition des fruits de la croissance. Cela est extrêmement dangereux pour le parti, parce que ça ne peut pas aller sans un ralentissement général de la croissance. Alors d'ailleurs, Xi Jinping l'a reconnu, qui fixe à 7,5% le minimum d'augmentation du PIB. On croit rêver d'ailleurs, fixer un minimum d'augmentation du PIB à 7,5%. Évidemment, ça me paraît étonnant. Mais jusqu'ici, l'augmentation s'était plutôt située autour de 10%. Donc c'est bien qu'on envisage un certain freinage. Or, s'il y a freinage, et ça pourrait être plus que cela, si on abandonne l'ancienne formule, c'est extrêmement dangereux pour le parti, parce que en absence de légitimation idéologique, malgré les précautions qui sont prises, le régime a deux fondements, deux piliers qui sont la croissance économique, d'une part, et le nationalisme, l'exaltation du patriotisme et du nationalisme de l'autre. Si on freine la croissance trop, on risque de déstabiliser le régime, et c'est donc extrêmement dangereux pour le parti. Donc il est engagé dans une conversion, un changement de modèle, qui demande extrêmement de précautions et de prudence, et je pense qu'il adoptera encore la méthode de Deng Xiaoping, c'est-à-dire peu à peu, pour l'instant en tout cas, on parlait d'une reprise de la croissance fin 2012 et au début de 2013, et cette reprise, c'est encore des investissements publics et c'est encore de la croissance des exportations. Donc on est toujours dans le même modèle parce qu'on a peur de passer à un ralentissement de la croissance.
D'où ma question, quel est le rôle que peut jouer le secteur privé justement dans ce renouvellement de système ou dans l'émergence d'un nouveau modèle ? Jean-François Huchet ?
Oui, potentiellement, le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer parce que on le voit, on a une hypertrophie de l'industrie en Chine quand on compare les chiffres avec d'autres pays, que ce soit dans la région ou voire même les trajectoires qu'ont suivi en matière de développement les pays les plus développés. Donc il y a tout un secteur des services qu'il va falloir développer. Et là, les entreprises privées, normalement, seraient censées jouer un rôle extrêmement important en termes de, en termes d'emploi. Alors, la démographie est en train de changer, le pays est en train de vieillir très très rapidement, il va y avoir de moins en moins d'actifs qui rentrent sur le marché du travail. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le parti qui va retrouver peut-être aussi une certaine marge de manœuvre sur cette question du chômage et peut-être un peu lâcher du lest sur un certain nombre de choses. On le voit avec la politique de l'enfant unique qui risque peut-être d'être levée. On a entendu un certain nombre de choses ces derniers temps. Le mauvais point sur la démographie, c'est que la contribution effectivement de ces nouveaux bras qui arrivaient chaque année sur le marché du travail, qui a pu représenter, ne l'oublions pas, selon les années, presque 1%, voire 1,5% de points de croissance, hein, sur 8, 9, 10% de croissance selon les années, ça va disparaître. Ça va même devenir négatif à partir de 2015. Donc ça, la Chine va devoir compenser. Donc le secteur privé, je pense que la Chine n'a pas trop le choix, elle va devoir l'accepter, mais ça va s'accepter dans la douleur parce que effectivement il va falloir qu'on ouvre un certain nombre de secteurs. Il va falloir aussi que le secteur bancaire change son attitude vis-à-vis du secteur privé. Alors qu'est-ce qui va se passer du côté du secteur financier? Il y a beaucoup de points d'interrogation parce que là aussi, quand je parle de verrou idéologique, il me semble que jusqu'à présent, le Parti communiste s'est servi parfois, à mon sens, à bon escient du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'à un certain moment donné, comme il n'y avait pas de protection sociale dans les années 90, il a fait jouer au secteur bancaire un rôle quasi-fiscal en demandant au secteur bancaire qu'il contrôlait de distribuer des subventions à des entreprises pour payer au moins un minimum de salaire à des gens qui allaient perdre leur emploi. Donc, bien sûr, les dettes à l'intérieur du secteur bancaire ont augmenté, mais jamais on ne pourrait demander une chose pareille en Europe à un secteur bancaire, de dire aux banques, allez-y maintenant, vous allez payer pour le chômage avec des crédits qui sont en fait, qui ne sont pas des crédits, qui sont des subventions. Donc le parti s'en est servi. Et c'est pour ça très certainement qu'un certain nombre de banquiers se sont rappelés et se sont dit, voilà, si jamais on distribue comme ça des crédits, on va revenir à la situation des années 90 où il va falloir encore épurer nos comptes. Donc, de ce point de vue-là, si jamais on décide de privatiser le secteur bancaire, ou en tous les cas de l'ouvrir et de faire participer le secteur privé et de lui donner des crédits un peu plus, là, il va se poser toute une série de questions, parce que le parti ne peut pas perdre le contrôle, à mon avis, hein, de ce contrôle administratif des ressources financières.
Alors, j'imagine, vous le rappeliez, Xavier Richer, 50 000 mouvements sociaux.
C'est encore plus maintenant.
Oui, c'est ça. 180 000.
Ou 180 000, ouais. Enfin, on n'a pas les chiffres, puisque rien d'officiel en la matière. Ça, c'est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain pour l'équipe Xi Jinping. Comment résoudre les contradictions sociales, comment calmer ce mécontentement social, cette fronde qui apparaît un peu partout dans le pays. Peut-on préciser, avant de poursuivre, que, encore une fois, l'Occident est fasciné par ces 300 millions de consommateurs de la côte Est, mais il ne faut pas oublier que sur 1,8 milliard de Chinois, beaucoup vivent encore, ou 400 millions, vivent encore sous le seuil de pauvreté.
Oui, tout à fait. Et alors, le problème, justement, et qui est un peu au centre de votre ouvrage, c'est un peu passer vers ce modèle, de croissance endogène, qui impliquerait une plus grande redistribution, qui ferait que l'État devrait se désengager d'activités qu'il a aujourd'hui pour que ce soit les ressources, justement, cette classe moyenne, entre guillemets, qui puisse financer, etc. Donc il y a vraiment un problème qui n'est pas simplement le problème du secteur privé, parce qu'après tout, on peut très bien considérer que le secteur public puisse faire des gains de productivité. Il y a des gens compétents pour le faire. Et si on regarde le fonctionnement des firmes publiques, on voit l'amélioration des comptes. Donc, ça veut dire que il y a des possibilités aussi des gains de croissance extrêmement importants dans ce domaine. Simplement, le problème, c'est celui de la redistribution des ressources et réduire les écarts. Bon, si on prend l'écart de Gini, on voit que les inégalités chinoises sont équivalentes à celles des États-Unis. Donc, c'est un paradoxe. Alors, on peut bien sûr soutenir, applaudir le succès de cette très grande croissance, mais le coût social extrêmement fort, puisque ça se fait au détriment donc des acteurs de cet enrichissement qui sont les travailleurs.
Marie-Claire Bergère.
Je voudrais revenir sur un problème qui a été évoqué par Xavier Richer, qui est celui de la corruption. Parce qu'il me semble que quand on regarde l'ensemble du tableau, moi je ne vois pas de perspective de disparition du parti ni de son pouvoir dans une échéance à brève ou moyen terme. En revanche, il a une profonde faiblesse et c'est la corruption. Et cette corruption, il n'arrive pas à lutter contre, il lutte très mal. Alors c'est vrai, vous évoquez les procès, les mesures prises pour sanctionner les fonctionnaires. Quand il y a des procès de corruption, c'est presque toujours les fonctionnaires et non pas les gens qui les ont corrompus. Qui sont sanctionnés parce qu'on pense, j'imagine, que le commerce et les affaires, ça va toujours avec un peu de corruption, c'est normal, tandis que du côté des fonctionnaires, ce n'est pas normal de recevoir des pots de vin. Il y a eu pourtant, comme vous le dites, beaucoup de tentatives de contrôle, parce que la corruption va très loin, vous parliez des pots de vin, mais on vend les charges de secrétaire du parti, on vend les charges de contrôleur douanier, etc., on vend les charges surtout des fonctionnaires qui ont des pouvoirs économiques, le pouvoir de mettre des tampons et qui gagnent beaucoup d'argent à l'occasion de ces autorisations qu'ils dispensent. Donc il y a eu des procès, il y a eu des condamnations. Mais dans quel cas ? Dans le cas où les protecteurs politiques des gens condamnés sont en difficulté, c'est-à-dire quand il y a des luttes de clans, des divisions au sommet, quand certaines factions politiques ne sont plus capables de défendre leur clientèle, alors ces gens passent en justice. Mais quand c'est bien homogène au sommet et qu'il n'y a pas de rivalité, eh bien la solidarité des élites dirigeantes s'exerce et il n'y a pas de procès. C'est donc dans chaque procès, il faut regarder qui est condamné et qui était derrière, qui est-ce qui protégeait la personne condamnée. On s'aperçoit que le protecteur, pour des raisons diverses, de succession ou d'âge ou de n'importe, n'a plus été en mesure d'exercer sa protection. Et c'est à ce moment-là qu'il y a sanction. Mais c'est évidemment très, très partiel. Et l'autre point sur lequel je voudrais revenir, ce sont les mouvements sociaux et les grèves qui, c'est vrai, se multiplient. Les Chinois ne font pas la distinction, ils recensent des incidents de masse. Ça peut être n'importe quoi, ce sont des troubles à l'ordre public. Et là, pour gérer ces incidents de masse, ils ont développé une technique qui est d'essayer de prévenir les incidents. Et les fonctionnaires locaux ont pour mission, aussitôt qu'il y a un trouble qui se développe, d'aller sur place pour essayer de trouver une solution et d'empêcher le trouble d'augmenter. Ces techniques s'accompagnent souvent de reculs locaux. C'est-à-dire que sur certains points qui sont contestés par des paysans ou des ouvriers, il y a recul, on augmente les salaires, ou bien, par exemple, dans le cas de Wuhan, c'était un village dans le sud de la Chine qui quasiment a fait sécession, les paysans ayant décidé qu'on ne pouvait pas prendre leurs terres, comme vous le disiez, leurs terres, ils ont, après la décollectivisation rurale, en 1978, ils ont récupéré le droit d'exploiter leurs terres en famille, mais pas le droit de propriété. Le droit de propriété des terres rurales est resté à la collectivité, au village et aux autorités villageoises. Donc ces autorités ne se privent pas de vendre les terres aux développeurs et l'argent, au lieu d'être retransmis aux paysans, est en grande partie gardé par ces autorités elles-mêmes, elles se le mettent dans les poches. D'où l'indignation des paysans qui se retrouvent privés de terres, privés d'indemnisation, qui n'ont plus de moyens de vivre. À Wuhan, ça s'est très mal passé, comme Wuhan est près de Hong Kong, ça a été très couvert par la presse et les paysans ont quasiment fait sécession. Ils ont refusé, ils ont fermé le village, ils ont refusé de recevoir les fonctionnaires locaux. Et finalement, le pouvoir, il est vrai qu'à ce moment-là, la province du Guangdong était dirigée par un gouverneur assez libéral qui s'appelait Wang Yang. Eh bien, ils ont reculé, ils ont donné satisfaction aux paysans, ils ont refait de nouvelles élections villageoises en laissant les paysans élire leurs propres représentants au lieu d'élire les représentants du parti, etc. Donc il y a une grande flexibilité du parti qui se combine à un grand autoritarisme et une grande brutalité de la répression dans certains cas. Là aussi, il y a une espèce de gestion des contradictions, autorité, brutalité d'une part, et d'autre part, flexibilité lorsque vraiment les affaires deviennent dangereuses pour l'autorité du parti. Et c'est ainsi, je crois, qu'il arrive à se maintenir au pouvoir.
Et si on parle de, à mon avis, des grands défis et des choses qui peuvent déstabiliser la Chine, à côté des mouvements sociaux, de l'inégalité et de la corruption. Marie-Claire Bergère termine son livre sur ça, et je pense qu'on n'en a pas parlé encore, mais ça nous ouvrirait un autre débat, c'est la question de l'environnement, qui est dans un état... les dégradations de l'environnement sont très, très sévères, et toute la classe moyenne chinoise aujourd'hui, dans les villes, que ce soit sur la pollution de l'air, bien sûr, qui est visible à Pékin, mais aussi sur la pollution de l'eau, la question de l'érosion des sols, toute une série de choses, on risque d'avoir effectivement des demandes qui, là aussi, vont augmenter la pression sur le parti pour qu'il change de modèle de croissance.
Alors pour conclure, peut-être qu'on peut faire mentir à l'imperfite, la Chine s'est réveillée, le monde doit trembler, Jean-François Huchet.
Je pense que malgré ce qu'on a pu dire autour de cette table, la crise peut à un certain moment donné arriver sur le chemin de la Chine, mais il s'agit de savoir quel type de crise. Est-ce qu'il s'agit d'un accident conjoncturel et toutes les économies en ont eu dans leur développement, donc on peut tout à fait l'envisager. Ce qui serait plus grave pour la Chine et qui pourrait remettre en question, il ne faut pas l'oublier quand même que depuis la fin du 18e siècle, il y a eu un déclin séculaire de la Chine parce que la Chine et l'Inde étaient les deux grandes économies mondiales à la fin du XVIIIe siècle, et que depuis 1978, c'est la première fois depuis la fin du XVIIIe siècle qu'on a une période aussi longue de croissance soutenue, et que ça a une signification politique très importante pour les Chinois. Donc, ce qui pourrait remettre en cause cet acquis de 35 ans de réforme et de croissance, ce serait effectivement une crise d'un autre calibre, qui serait une crise de type systémique qui enrayerait un petit peu tout cela. Et je pense qu'il ne faut pas l'écarter, mais je pense que sur le plan de la consommation intérieure, il reste, et sur le plan du contrôle politique, il reste encore, c'est difficile à dire, des poches de croissance encore très importantes pour la Chine, et que le parti va les utiliser pour justement justifier son pouvoir et sa légitimité.
Marie-Claire Bergère, je vous laisse le mot de la fin, parce que c'est votre ouvrage qui a servi un petit peu de fondement idéologique à cette table ronde.
Je voudrais reprendre un petit peu ce que vient de dire Jean-François Huchet. Je crois qu'il y a encore des marges de croissance qui seront exploitées. Le revenu, enfin en parité de pouvoir d'achat, en Chine, c'est 7 600 dollars par an par tête. Donc ça représente à peu près ce qu'était le Japon dans les années 60, la Corée dans les années 80, donc ça laisse encore une certaine marge de croissance et elle sera certainement utilisée. Bon, ça ne met pas la Chine à l'abri d'un accident, vous l'avez dit, mais raisonnablement, on peut penser que la croissance continuera avec des chaos, des problèmes, mais qu'elle continuera. Les problèmes sociaux, ils sont graves. Est-ce qu'on arrivera vraiment à modifier la redistribution des richesses? C'est difficile, mais peut-être que peu à peu, on y arrivera. Par exemple, une des premières mesures qu'a prise Xi Jinping, c'est d'obliger les entreprises publiques, les entreprises d'État, à augmenter le dividende qu'elles doivent payer à l'État. Et l'augmentation sera de 5% à venir d'ici un an ou deux. C'est un dividende très faible jusqu'ici. Donc, on va l'augmenter de 5%. Et ces 5% iront au financement du système de sécurité sociale. Donc il y a des efforts qui sont faits, qui sont peut-être faibles, mais qui, à la fin, porteront peut-être leurs fruits. Il me semble donc qu'on va vers une persistance du système, géré au jour le jour, en fonction des urgences.
Marie-Claire Bergère, je vous remercie. Xavier Richet, merci beaucoup. Et Jean-François Huchet, je vous laisse partir en courant, rejoindre vos étudiants de l'INALCO. Merci beaucoup.
Macron Taoiseach, Mao Zedong, Anna Huangdini,
Yang Yang,
Yang Mingshan, Cookie,
Zhao Rongkun,
Alain, Navkoch.
Ainsi s'achève cette troisième matinée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao. Dans un instant, c'est avec les bons plaisirs d'Ali Rebéi que vous avez rendez-vous. Quant à moi, je vous retrouve demain matin dès 9h pour poursuivre cette grande traversée chinoise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture.
Il est entré dans mon cœur, et ne pas... que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui